Les matins de France Culture, 7h-9h, Hervé Gardette.
Vous avez les jambes molles, vous vous sentez fiévreux, vous prenez votre température, 36,2, comment est-ce possible? Et si c'était parce que la température moyenne de notre corps a baissé? C'est ce que révèle une étude menée par des chercheurs de l'université de Stanford aux États-Unis. Notre corps est moins chaud qu'il ne l'était au 19e siècle, 36,5 plutôt que 37. Alors pour en parler, Jean-François Toussaint, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de physiologie à l'université de Paris, vous dirigez l'IRMES, l'Institut de Recherche Médicale et d'Épidémiologie du Sport. Alors ce que dit précisément cette étude, c'est que les hommes nés au début du 19e siècle avaient une température supérieure de 0,59 degrés. Les femmes nées à la fin du 19e, une température supérieure de 0,32 degrés. C'est parce que les données n'ont pas été prises évidemment en même temps qu'il y a cette différence entre hommes et femmes. D'abord, Jean-François Toussaint, qu'est-ce que c'est que cette étude? Est-ce que c'est une étude sérieuse?
C'est une très belle étude qui a regardé sur trois cohortes à plus d'un siècle et demi d'écart les vétérans de la guerre civile, donc uniquement des hommes aux États-Unis, nés pour certains dans les années 1810-1820 pour les tout premiers. Et puis jusqu'à l'étude Strait de 2007 à 2011, donc la plus récente, et avec une étude intermédiaire dans les années 1970. Et donc on a 200 000 personnes, on a 600 000 points de mesure comparés sur un siècle et demi, ce qui donne sur ces très grands nombres une valeur statistique extraordinairement puissante pour montrer cette diminution très importante, statistiquement très importante, de la température moyenne.
Et que l'on peut extrapoler à l'ensemble du genre humain, ou bien est-ce qu'il faut la limiter uniquement à la zone géographique qui était concernée, à savoir les États-Unis?
Alors on la limite surtout à la zone temporelle et à la zone économique que ça représente, parce qu'on comprend avec cela les points de transition qui ont été les plus importants des évolutions sur la santé publique en particulier, et sur ces grands critères qui sont tous liés les uns aux autres, l'énergie, la température, la taille, le poids, l'espérance de vie. On voit que ces éléments-là vont avoir des effets qui répondent à ce que sont les grandes hypothèses de ces conclusions. Et les grandes hypothèses sont la première, diminution des infections. Donc on a une transition qui va des risques infectieux, tous les parasites, les bactéries, les virus qui étaient très présents, la tuberculose concernait 5%, parfois 10% de la population dans certaines régions. Et puis maintenant, on est sur des maladies uniquement dégénératives, des maladies d'insuffisance, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, insuffisance rénale, dans lesquelles en fait on voit que l'âge finalement finit par détruire nos organes.
Ça veut dire, Jean-François Toussaint, que nous sommes moins soumis, en tout cas ces populations-là, j'imagine qu'on peut aussi s'englober sans doute dans cet échantillon, même si ça se passe aux États-Unis. Nous sommes moins soumis par exemple à des virus, donc nous tombons moins malades, nous avons moins de fièvre. Donc forcément, la température moyenne corporelle, elle diminue.
Et c'est essentiellement lié à la réaction inflammatoire qu'entraînent toutes ces, ce que j'appelle ces prédateurs primaires, virus, bactéries, parasites, qui ont à chaque fois une conséquence qui est celle de l'élévation de la température, parce que toutes les réactions avec les macrophages, les cellules, les globules blancs qui s'activent vont donner une élévation thermique pour résister à ces corps étrangers que notre organisme, contre lesquels il doit se défendre.
Mais alors, si notre température corporelle diminue, donc environ un demi degré depuis le début du 19e siècle, ce qui est quand même assez conséquent, est-ce que ça ne nous rend pas d'autant plus vulnérables aujourd'hui lorsque de nouveaux virus apparaissent?
Vous voyez à quoi je pense? La réponse est probablement non, parce que ce qui nous a donné cette capacité, en fait il y a deux raisons principales, celle de l'alimentation qui nous donne plus de réserves, plus de résilience, plus de capacité de résistance, et puis la deuxième c'est surtout qu'on les a éloigner ces parasites, ces virus. Et c'est essentiellement par le biais de l'eau, de l'adduction des eaux et donc de l'hygiène à l'intérieur des grandes métropoles, le fait d'avoir de l'eau propre qui coule dans nos robinets, dans nos salles de bain, dans nos cuisines, et le fait d'éloigner par les eaux usées toutes les déjections, tous les déchets qui peuvent être produits, fait que on va avoir un réservoir moins accessible directement, mais par contre on reste tout à fait vulnérable pour les nouveaux virus. C'est par exemple le cas actuellement sur les SRAS, les MERS, le nouveau coronavirus COVID-19, sur lequel on va avoir des capacités qui sont à tester parce que le vivant, lui, continue de s'adapter.
Il y a une autre hypothèse que je voulais vous soumettre, Jean-François Toussaint. Est-ce que ça n'est pas dû également au fait que nos activités demandent peut-être moins d'efforts physiques que ça ne pouvait être le cas au début du 19e siècle et que quand on a moins besoin de solliciter son corps, on a moins besoin d'avoir une température, disons, élevée?
Évidemment, c'est la deuxième hypothèse. Et ce qui est très étonnant, par contre, c'est qu'elle ne soit pas proposée dans cette étude. On voit que la possibilité d'être chauffé l'hiver ou avec une climatisation l'été peut donner un confort thermique qui est certes important, contre lequel on a moins besoin de lutter. Mais cette idée même de produire soi-même de la chaleur par le biais de l'exercice n'est pas discutée. Et c'est très étrange pour une étude de cette qualité parce que, bien sûr, on voit que cette réduction qui est considérable de la dépense énergétique quotidienne, qui elle-même induit une élévation de la température qu'on arrive à mesurer dans les heures qui suivent, la nuit suivante et même au lever le lendemain matin après qu'on a fait quelques heures d'exercice, qui était quand même le quotidien de nos prédécesseurs il y a 5 à 10 générations, on voit bien que cet impact-là peut se traduire. Et c'est d'autant plus important que ce que l'on voit entre la cohorte du 19e et celle de 1970 est moins important en écart que celle qu'il y a entre les années 70 et les années 2010. Et là, très clairement, c'est pas un problème infectieux qui s'est produit, c'est essentiellement celui de notre sédentarisation, celui de notre immobilisation.
Vous qui travaillez beaucoup avec les sportifs, Jean-François Toussaint, est-ce que vous constatez justement une différence entre les sportifs de haut niveau et puis le commun des mortels en rapport justement avec la température corporelle? Quand on veut être un sportif de haut niveau, il vaut mieux avoir une température corporelle un peu plus élevée?
Alors il y a un clivage qui est extraordinaire, qui est celui de cette diminution d'un facteur 6 à 10 selon les populations, de l'activité moyenne en population générale, et celui au contraire d'une augmentation d'un facteur 10 dans la deuxième moitié du XXe siècle globalement, des sportifs qui, rappelez-le, il y a 100 ans, finalement, n'avaient pas le droit de s'entraîner. C'était considéré comme du dopage, l'entraînement. Alors que maintenant, ce sont 6, 7, 8 heures par jour d'exercice parfois extrêmement intense qui vont avoir cet effet sur la température. Et donc cette différence entre ceux qui n'en font plus en population et ceux qui en font énormément est une différence majeure qui se joue aussi sur ces différences thermiques mesurables.
Une toute dernière question, on est en phase de réchauffement climatique. Est-ce que le corps doit faire des efforts importants pour se thermoréguler? Est-ce que ça peut à nouveau là jouer sur la température moyenne corporelle?
C'est la grande question de notre capacité d'adaptation, parce que si culturellement on peut s'adapter au grand froid, et donc par le biais des vêtements, par le biais des couches successives ou par le biais de la protection thermique au sein des habitations, on a quelques facilités pour le faire, on a très très peu de moyens de se défendre contre les chaleurs excessives. Une fois qu'on a retiré le dernier t-shirt, la dernière chemise, voilà, il ne nous reste que la question de savoir jusqu'où ça va monter.
Merci beaucoup Jean-François Toussaint pour ces explications. Je rappelle que vous êtes professeur de physiologie à l'Université de Paris.